Alors, bonjour à tous. Waouh, j'ai rien fait. Avant, on m'entendait pas. Maintenant, on m'entend. Ça, c'est du bon. C'est de la technique. Fabuleux, la technique, quand ça marche. Hein. Donc, Joël Suter Razana Johari. Suter, c'est d'origine alsaco-suisse. Razana Johari, évidemment, pour les personnes qui ont un arrière-plan de relations avec l'Afrique, savent que ça vient de Madagascar. Voilà, mon mari est donc malgache. Alors, on avait convenu de faire ça en trois temps, c'est toujours valable, Eric. Donc, un temps où je me présente, et puis ensuite un temps où je vous parle de, non pas de la fédération, mais de vous, de qui vous êtes, peut-être sans même le savoir. La fédération, c'est pas quelques personnes qui bossent à Paris, au troisième étage de la maison du protestantisme. La fédération, c'est toutes les églises et quelques personnes qui ont des rôles particuliers, comme l'a dit Eric. Donc, dans un deuxième temps, on parlera de ça. Et puis, dans un troisième temps, voilà, j'aime bien que ça soit un petit peu à bâton rompu. Question-réponse, débat, vous aurez le droit de dire « Ah, je suis pas d'accord !» ou de poser des questions, ou de faire part de vos incompréhensions, de vos... Voilà, de tout ce qui vous semble plus ou moins pertinent. Ça marche ? Donc, quelques mots sur moi. Donc, j'ai bientôt 60 ans. Bah oui, c'est comme ça. Je suis née en 61. Je suis maman de trois enfants adultes et grand-maman de deux. J'ai commencé une première carrière dans... l'enseignement du français dans le sud de la France, plus précisément à Marseille, où j'ai dirigé un institut de formation pour adultes. Le Seigneur m'a rattrapée. Alors, j'ai peut-être zappé une étape, c'est que je suis d'origine catholique, convertie à 19 ans, dans une église ADD à Strasbourg. Et puis, lors d'un déménagement de Strasbourg dans le sud de la France, parce que nos enfants étaient asthmatiques tous les trois, il a fallu quitter l'Alsace et notamment la plaine de Strasbourg à cause de un petit peu la cuvette, le brouillard, etc. Le climat ne convenait pas à nos enfants. On a quand même failli en perdre 2 sur 3 dans des situations assez dramatiques où on a vu le Seigneur intervenir par miracle. Mais les médecins nous ont dit quand même « Allez dans un endroit où il fait chaud », donc on a déménagé à Marseille. Et puis donc là, on a continué notre vie tranquillement jusqu'à ce que, eh bien, à un moment donné, dans les églises baptistes que nous avions connues, un petit peu par hasard, lors de nos pérégrinations en recherche d'une nouvelle église, les assemblées de Dieu ne nous convenant plus, on est tombé sur les églises baptistes, complètement inconnues au point de départ. Hein, vous imaginez? Je connaissais les cathos, je connaissais les pentecôtistes, je ne savais pas qu'il y avait plein de chrétiens ailleurs qui portaient tout un tas d'autres étiquettes. Et donc, j'ai découvert l'univers baptiste, on s'est engagé à fond dans une des églises baptistes de Marseille, puis au bout d'un certain temps, je prêchais plus que mon pasteur, je faisais 4 études par semaine, l'église a explosé, j'étais pasteur de jeunesse, sans aucune formation théologique, Et à travers tout le mouvement créé parmi la jeunesse, les familles sont arrivées, les familles appelaient d'autres familles, et puis l'église a littéralement explosé. Résultat, je me retrouvais avec un groupe de jeunes, un groupe d'ados à enseigner toutes les semaines. Le parcours Alpha que j'avais initié immédiatement en 2000, j'étais tombée là-dessus. On met le parcours Alpha en place, donc j'étais responsable d'Alpha, post-Alpha, prépa baptême, voilà, c'était... Et là, mon mari me dit « Mais tu te souviens, chez les pentecôtistes, tu avais reçu une parole ?»« Ah oui, tiens !» Et mon mari m'inscrit en faculté de théologie. Et j'étais encore une femme soumise à l'époque. J'ai dit « Mais tu es sûre ?» Il dit « Oui, c'est ta place !» Et le cheminement a commencé à ce moment-là avec la faculté de théologie, le ministère pastoral, et puis... un déménagement, quand je suis entrée dans le ministère pastoral, Marseille-Annecy, ensuite Annecy-Metz, et l'appel à être secrétaire général de la fédération. Voilà, en gros, vous pourrez poser des questions tout à l'heure, parce que là, évidemment, je brosse 60 ans en 3 minutes. C'est un petit peu schématique. mais les grandes articulations sont là. Alors, être secrétaire général, c'est quoi? Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas notre fédération, nous avons deux forces. C'est la souveraineté des églises locales, ça fait partie, des églises évangéliques et baptistes. Chaque église, en comparaison avec les catholiques évidemment, où il n'y a église que s'il y a l'évêque, les évangéliques, et donc a fortiori les baptistes, pensent que dans chaque église, le Christ est présent, pleinement présent par son esprit, et donc que chaque église a la possibilité, le droit et même le devoir, quelque part, de discerner le chemin que le Christ souhaite imprimer dans cette communauté-là. On appelle ça la souveraineté de l'église locale. Sauf que l'histoire a montré que les églises locales ne peuvent pas survivre seules. On le voit même dans le Nouveau Testament. Les églises construisent des projets ensemble parce qu'une église seule n'a pas l'ensemble des dons que Dieu accorde à une église. On le sait. Quelle église locale a l'ensemble des cinq ministères? Il faut déjà qu'il y ait un certain nombre de zéros derrière le 2 ou le 3, 2000, 3000 membres. Là, éventuellement, on peut concevoir qui est les cinq ministères. En dehors de ça, c'est quand même extrêmement difficile. Et donc, les églises, depuis le début, et d'après moi, c'est vraiment un désir de Dieu qu'il y ait des alliances qui se construisent entre les églises. Et donc, la Fédération Baptiste se construit de cette manière-là. Nous allons bientôt fêter les 100 ans. Vous êtes au courant que bientôt, il va y avoir tout un tas de festivités qui vont arriver de janvier à décembre. Il va y avoir plein de choses qui vous seront proposées, des kits de ressources pour que vous puissiez ici, localement, faire les choses, faire du bruit, vous manifester auprès des autorités locales, faire vivre votre communauté et faire vivre cette histoire. Nous avons donc bientôt 100 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans? Eh bien, il y a 100 ans, avant 1921, il y avait un courant unique de baptisme en France, avec des tensions en intérieur. Et dans ces tensions-là, il y avait principalement deux positions. Il y avait la position de quelqu'un qui s'appelait Ruben Sayens. Peut-être que vous avez entendu parler de ce monsieur. Il a écrit énormément de cantiques. Il a été le fondateur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne à Paris. Et ce monsieur était un méridional, type cher, avec un assang et la faconde de là-bas. Hein. Ça, waouh, vraiment quelqu'un qui était fort... Dans le sud, on dit un... Ce que je vais me permettre, on n'est pas dans le sud ici. Fort en gueule, quoi. un homme de Dieu dans ce côté un petit peu exubérant du méridional. Très conservateur, qui avait vraiment un ministère de locomotive au milieu des baptistes en France. Et puis à côté de lui, il y avait un autre monsieur tout aussi influent, qui s'appelait Philémon Vincent. On est à la fin du 19e siècle. Ce monsieur Philémon Vincent, lui, venait du nord de la France. Vous voyez déjà les jeux de personnalité qui ont pu jouer. Hein. Et en plus, il a été formé pasteur à l'Institut protestant de théologie de Paris. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore l'Institut LIPT, l'Institut protestant de théologie. C'était un homme extrêmement intellectuel, capable de philosopher, de raisonner sa foi. Tout aussi chrétien, engagé que Ruben Sayens. Mais vous voyez un modèle différent. Et ces deux hommes-là, dans le mouvement baptiste à la fin du 19e siècle, ont créé deux tendances. Une tendance très conservatrice et une tendance beaucoup plus en discussion avec la philosophie, tout en préservant les fondamentaux de la foi. Et ces deux hommes, à Paris, ont commencé à se frictionner. Voilà, des conflits de position, mais aussi de personnalité. Aujourd'hui, 100 ans après, on le réalise, qu'il y avait certainement les origines sociographiques, mais aussi le tempérament des personnes qui a joué dans ce conflit-là. À l'époque, on ne voulait pas le dire, hein. On disait que c'était juste des positions théologiques. Mais aujourd'hui, on en a conscience qu'il y avait plus que cela. Et donc, ces deux courants, derrière ces deux personnalités, ont grandi dans les milieux baptistes. Le comité de Boston, qui était un mouvement américain, qui soutenait les pasteurs, qui soutenait financièrement les pasteurs en France parce que les églises étaient trop petites pour payer leurs propres pasteurs. Le comité de Boston s'est dit, il faut qu'on arrive à réunir tous ces mouvements baptistes qui sont peut-être en train de s'éloigner trop les uns des autres. Ils ont voulu les mettre à une table en se disant, si les églises sont plus grosses, eh bien peut-être qu'elles pourront commencer à payer leurs pasteurs et que nous, on pourra se décharger un peu financièrement parce que le mouvement baptiste grandissait doucement, mais c'était que des petites églises à gauche, à droite. Bref, on arrive après la Première Guerre mondiale, les églises décimées, et le comité de Boston qui commençait aussi à... Qu'est-ce qu'on fait? On remet tous ces gens à table et au lieu d'arriver à une union, eh bien, voilà, le côté conservateur a choisi de quitter l'union baptiste de l'époque, s'est constitué donc en association, l'Association des Églises évangéliques baptistes de langue française. Monsieur Ruben Sayens est parti, il a tout lâché, il a créé son petit truc à lui, ça a donné la fameuse église du Tabernacle à Paris. Et quelques semaines après, le reste de ce qui existait au niveau des baptistes s'est constitué en fédération. Qu'est-ce que ça veut dire, la fédération, par rapport à une union? Eh bien, ça veut dire qu'on accepte dans notre sein des positions théologiques différentes. Qu'on ne va pas dénier à quelqu'un le titre de chrétien, sous prétexte qu'il ne pense pas comme moi, qu'il est capable d'aller disserter avec des grands profs de théologie, ou qu'un autre dit « non, moi je veux pas de philosophie », etc. Donc la fédération baptiste s'est construite sur ces deux pôles. Diversité, acceptée, et... ça y est, j'ai oublié l'autre... Diversité acceptée et souveraineté de l'Église locale. Voilà, donc l'ADN de la fédération baptiste s'appuie là-dessus. Évidemment, le tout sur la base d'une profession de foi avec toutes les composantes évangéliques. Ça a permis à la fédération, dans les années 1950, de ne pas schismer lorsqu'une partie des églises à Paris, notamment avec une fameuse église, le Point du Jour, a été visitée par le Saint-Esprit et est tombée, diraient les conservateurs, dans le réveil charismatique. Deux hommes, ça a été la chance de la Fédération Baptiste, l'ADN était déjà là, diversité acceptée, mais on a eu cette chance aussi qu'en 1950, deux hommes étaient partie prenante de ce débat. D'un côté, nous avions André Taubois, conservateur, et de l'autre côté, Jules Taubois, pasteur de l'Église, le frère. Eh oui, deux frères, merci Seigneur. Jules Taubois, pasteur de l'Église du Point du Jour, visité par le Saint-Esprit. Et voilà, le feu était là, ça parlait en langue, ça priait en langue. André Taubois disait « Mais enfin, mon frère, tu vas où, là ?» Et ces deux hommes ont décidé de ne pas schismer. Ils ont dit « Nous avons l'ADN de la diversité en nous, on va s'asseoir à table. » Et donc derrière André Taubois, tous les conservateurs se sont mis. Derrière Jules Taubois, tous ceux qui étaient visités par le Saint-Esprit se sont assis et ont dit « On va produire un texte qui va être un texte cadre. » C'est là que la notion de texte cadre est entrée dans la fédération. Ils ont produit en 1952 un texte cadre, ce que nous croyons du Saint-Esprit. Et les deux côtés ont refusé de se séparer. C'est unique dans toute l'histoire évangélique en France. Suite à ça, encore une fois, dans les années 80, Louis Schweitzer, aujourd'hui à la retraite, professeur d'éthique à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, Louis Schweitzer a dit « Il faut qu'on entre dans un dialogue œcuménique avec les catholiques. » Vous imaginez que toute une partie des églises baptistes de France ont commencé à grincer des dents. Dans nos églises, il y a nombre de personnes, dont moi d'ailleurs, d'arrière-plan catholique, qui ont parfois souffert et qui sont pas d'accord avec cette théologie, etc. Et Louis Schweitzer a dit « Oui, ok, nous ne sommes pas d'accord avec leur théologie, avec leur fonctionnement, mais on peut quand même aller discuter avec eux. Allons-y. » Et il crée donc le comité mixte de dialogue baptiste-catholique. Et les églises qui n'étaient pas d'accord n'ont pas schismé. Encore une fois, à l'orée de 2000, la problématique se pose de la question du ministère pastoral féminin suite à un vœu au Congrès, en 96, 97 je crois, où on pose la question de la place des femmes dans les ministères d'autorité, donc anciens et pasteurs. Hein, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà dans les églises baptistes à cette époque-là. Il y a eu tout un travail qui a été fait, des petits livrets envoyés dans les églises réfléchissent et remontent une position au congrès annuel, qui est l'organe de direction de la Fédération Baptiste, Et la place des femmes est acceptée comme étant possible pour les ministères d'autorité, d'où, évidemment, ma présence en tant que pasteur des églises baptistes. Cela dit, personne n'oblige une église à accepter une pasteur femme en son sein, souveraineté de l'église locale. Personne n'oblige une église à aller travailler avec les catholiques, encore une fois, souveraineté de l'église locale. Personne n'oblige une église baptiste conservatrice qui ne souhaite pas entrer dans une expression charismatique à vivre une expression de ce type-là, souveraineté de l'église locale. Donc notre fédération fonctionne comme ça. Je viens de vous parler du congrès, parce qu'évidemment vous avez une multitude de petites églises locales. J'appelle ça les cabines du bateau. Chaque église locale, c'est comme une cabine d'un bateau. Mais le bateau n'est pas dirigé par les personnes qui sont dans une cabine. Le bateau est dirigé par l'ensemble des personnes qui sont dans les cabines, qui se retrouvent au congrès annuel. L'année prochaine, il y aura un congrès annuel exceptionnel. Et normalement, au prorata du nombre de membres dans vos églises, il y aura des délégués. Monsieur le trésorier m'a dit que d'habitude, c'était lui le délégué, c'est ça? Je trouve ça super. Mais j'invite quand même les églises à réfléchir, à envoyer 2-3 autres responsables, et surtout des jeunes. Chut, j'ai rien dit. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des églises qui s'expriment à ce moment-là et qui définissent les lignes de conduite. Une fois que ces lignes de conduite sont définies, nous avons un conseil national qui met en œuvre les grandes directions. Parce qu'évidemment, et Eric le disait tout à l'heure, eh bien, l'Esprit-Saint se manifeste ici, mais vous avez des besoins qui dépassent le cadre de l'église locale. Notamment, et vous le savez, parce que pendant plusieurs années, vous n'avez pas eu de pasteur à votre tête, en termes de formation. Quelle église locale a les moyens de construire une formation suffisante pour que des pasteurs formés en théologie puissent les diriger? Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais on n'a pas besoin de pasteurs formés en théologie, le Saint-Esprit suffit. Eric fait la moue. Je la fais aussi. Le pasteur est une interface avec les autorités. Aujourd'hui, deuxième point, donc ça c'est le premier point, le pasteur fait les interfaces avec les autorités. Il y a toute une compréhension de la structure sociétale, de la place du religieux dans la société, qui est absolument nécessaire à comprendre. Et le Saint-Esprit ne donne pas tout comme ça. Deuxièmement, chacun d'entre vous aujourd'hui, principalement les jeunes, vous avez licence, master. C'est-à-dire que vous êtes à un niveau de raisonnement, à une capacité de réflexion totalement différente de celle d'il y a 50-60 ans. Le pasteur doit être capable de se situer au même niveau de raisonnement et de réflexion. Et donc il faut absolument un institut de formation, un lieu, une structure qui forme les pasteurs. De plus, aujourd'hui, nous avons Internet qui diffuse tout un tas d'idées, certaines très très bonnes, excellentes, et certaines très très mauvaises, voire toxiques. Il faut donc que le pasteur soit formé à l'analyse de tout ça pour pouvoir, ne serait-ce que de temps en temps, dire à l'un ou l'autre de ses membres, non mais attends, là faut faire gaffe quoi, c'est dangereux, attention, il y a ça ou ça derrière. Donc, ce principe de formation se vit au niveau national. De même, la Fédération Baptiste a décidé que le principe de mission se vivait au niveau national. Ça, c'est à double tranchant, par contre. Une petite église comme vous n'a pas encore la force pour implanter une église. D'après moi, une église adulte se manifeste par sa reproduction. Quand on est adulte, c'est valable pour les humains, c'est valable pour les animaux, c'est valable pour les églises. Quand on est adulte, on se reproduit à l'identique. Autrement dit, un disciple se reproduit dans un disciple. Une église adulte se reproduit dans une autre église. Sauf que, parfois, il y a des accidents d'église. Les églises grandissent, deviennent adultes, et puis reperdent de l'énergie pour X raisons. Hein. Parfois, c'est comme ça. Des accidents de la vie sur des êtres humains, et puis d'autres sur des communautés. C'est comme ça. Vous, en tant que tel aujourd'hui, vous n'êtes pas capable. Peut-être, je ne sais pas. Vous y avez peut-être réfléchi, je ne sais pas. En tout cas, certaines églises ne sont pas capables de se reproduire directement. Mais il y a la mission intérieure baptiste à laquelle chaque église est invitée à contribuer. Et c'est la mission intérieure baptiste qui va soutenir des pasteurs qui implantent des églises à gauche, à droite. Le jour où l'église, vous ou une autre, est capable de se reproduire, elle contacte, soit elle décide tout d'elle-même parce qu'elle en a les moyens en interne, soit elle contacte la mission intérieure baptiste qui peut envoyer des missionnaires, qui peut aider à la réflexion, etc., etc. Ces deux pôles, formation et mission, sont bien plus solides lorsqu'ils sont pris en charge par le niveau national. Et puis, il y a des postes de permanents à la Fédération baptiste. Les permanents sont des salariés du siège. Moi, je suis salarié du siège. Donc, quand vous payez les cotisations fédératives, ça sert à créer un fonds commun. Une partie de vos cotisations fédératives est placée chaque année dans le fonds commun. À quoi ça sert le fonds commun? L'église de Rouen a eu une tempête il y a 2 ans. Son toit s'est envolé. Elle n'a pas les moyens de faire appel à un banquier. Elle fait quoi? Elle s'adresse à la Fédération Baptiste. On a un petit fonds, mais il nous faudrait un complément de 30 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous faire crédit? On fait crédit. Crédit à zéro, évidemment, mais sur ses fonds propres, donc issus de d'une partie de vos participations fédératives, on aide les églises locales à répondre à leurs problématiques. Une autre partie des participations fédératives sert à salarier le secrétaire général, le responsable du développement, qui supervise donc toutes les églises de la mission intérieure baptiste, le responsable de la formation, et Rebecca, que vous connaissez plus ou moins les uns les autres, qui est la fidèle assistante, le pilier, puisque ça fait plus de 30 ans qu'elle est dans notre fédération. Alors, le secrétaire général, il a un rôle de lien, il va visiter les églises, il va les écouter, il va voir ce qui se passe, il va entrer en discussion avec eux quand il y a une difficulté, quand il y a un projet. C'est le secrétaire général qui fait cette interface-là. Donc, sur les 120 églises de l'Union, vous imaginez, je mets 2 ans à les visiter si je passe tous les dimanches. Je ne fais pas. Je m'arrête quand même un dimanche par mois où je débranche. Donc, il me faut plus de 2 ans pour visiter toutes les églises de la Fédération. Et puis après, je participe à tous les comités, commissions de la Fédération. Parce que, étant en lien direct avec les églises, eh bien, si par exemple la CDM dit « Oh là là, mais on a fini le travail », je dis « Stop, non, il reste une église là, Charleville-Mézières, qui n'a pas de pasteur, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, je suis allée les visiter, etc. etc. » Voilà, c'est mon rôle un petit peu d'être l'interface entre toutes les dimensions de la fédération. Alors, vous allez me dire, hein, j'ai même pas encore commencé ma prédication, mais je pense que je vais la laisser de côté et on va entrer dans la discussion directe. Qu'est-ce qui nous unit si on est tous si différents les uns les autres? C'était le cœur de ma prédication, mais je vais faire juste encore 5 minutes et puis je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce qui nous unit si on est aussi différents? Qu'est-ce qui nous différencie, nous, ici, l'Église évangélique baptiste de France, avec peut-être une autre église évangélique à côté? L'évangélisme en tant que tel, donc tous les mouvements évangéliques, sont définis aujourd'hui sociologiquement par 4 piliers. La centralité de la Bible, la centralité de la croix, la conversion personnelle, dont est issu un certain dynamisme que certains aujourd'hui n'osent plus appeler prosélytisme. Voilà, ça c'est les 4 points qui définissent sociologiquement, c'est ainsi que Sébastien Fatt, par exemple, le définit, tous les mouvements évangéliques. Nous, baptistes, qu'est-ce qui nous définit? En règle générale, si je vous demandais un micro comme ça, là, taf, taf, la plupart des temps, des gens répondent « le baptême des enfants ». Sauf que les pentecôtistes font pareil. Les libristes font pareil. Bref, les darbistes baptisent les enfants, mais les méthodistes, je ne suis pas sûre. Bref, qu'est-ce qui nous différencie? Là, je fais juste un temps mort pour vous permettre de réfléchir et de vous rendre compte que peut-être vous n'avez pas la réponse. Eh bien, ces choses dont je vous ai parlé tout à l'heure nous différencient. Premièrement, l'accueil de la diversité. Nous sommes, en tant que Fédération Baptiste, convaincus qu'il y a plusieurs manières, tout aussi valables les unes que les autres, de vivre sa foi. Je vous en ai parlé, expression charismatique, discussion philosophique, etc. On ne remet pas en cause les fondements, mais l'expression est différente. Ça, c'est fondamental à la Fédération Baptiste. Ça, c'est fondamental. Et puis, deuxièmement, baptiste ne veut pas seulement dire être vraiment un baptiste, un vrai baptiste. Être un vrai baptiste, ça signifie vivre sa vie d'église selon un système de gouvernance particulier. C'est quoi ce système de gouvernance? C'est un système à trois pieds. Alors ça, peut-être qu'un grand nombre d'entre vous ne le savent pas, mais on va en parler l'année prochaine lors du congrès. Les églises baptistes fonctionnent avec trois lieux d'autorité. Le véritable baptisme historique, c'est ça. L'autorité du pasteur. Clair, net, c'est un homme mis à part par Dieu pour un ministère particulier. L'autorité du conseil. La Fédération Baptiste appuie sa compréhension d'un fonctionnement d'église avec des conseils. Il faut réfléchir vraiment profondément au choix des conseillers ou des anciens, ça s'appelle soit conseil, soit ancien selon les églises. Et le troisième point d'autorité, c'est vous, l'église locale. Et ça, ça nous différencie fondamentalement d'un grand nombre d'églises où, par exemple, il n'y a que pasteur et conseil qui sont les lieux d'autorité. L'Assemblée n'a rien à dire. Chez les baptistes, nous avons un tripode, on appelle ça le tripode d'autorité. Autrement dit, le pasteur, quand il y a une décision à prendre, chez les baptistes, a la responsabilité de vous informer, le pasteur et le conseil ont la responsabilité de vous informer des directions, de construire la réflexion, et en assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, c'est l'Assemblée tout entière qui discerne, et on en arrive de nouveau à la souveraineté de l'Église locale dans tous ses membres, dans son corps complet, c'est l'Assemblée qui discerne et qui avance dans le chemin de Dieu. Et ça, c'est très difficile à vivre aujourd'hui. C'est très difficile à vivre, ce tripode, parce qu'on bascule souvent dans un extrême. Mais cette articulation du ministère de un, de quelques-uns et de tous, nous semble à nous, baptistes, profondément biblique. On la retrouve dans les Actes des Apôtres et dans les lettres de Paul, notamment. Voilà donc ce qui nous différencie. Diversité assumée, souveraineté de l'Église locale, avec le congrès comme lieu de direction, et la gouvernance à trois pieds. Voilà, si maintenant on vous demande ce que c'est qu'être baptiste par rapport à ce que c'est qu'être libriste, méthodiste, machin chose, normalement, vous avez les éléments. Mais comme dit, selon les personnes, selon les histoires des communautés, bien les choses se construisent parfois différemment. Selon la diversité, dans une église charismatique, par exemple, la place du pasteur, selon les dons aussi que le Saint-Esprit lui aura conféré, la place du pasteur peut être plus grande dans une église conservatrice, où ce sera peut-être plutôt le conseil qui va avoir la prédominance. Et puis parfois aussi dans le temps, les choses bougent. Mais la conscience de ce tripode devrait être là dans toute église de la Fédération Baptiste. Je dis bien Fédération Baptiste parce que l'association baptiste notamment n'a pas du tout ce tripode de gouvernance. Dans la gouvernance, c'est juste conseil et pasteur avec des assemblées générales où il n'y a pas tout. Enfin, beaucoup moins, ce travail-là. Voilà en gros ce que vous êtes dans votre dimension d'église fédérée. Parce que la fédération, c'est moi, certes, mais c'est vous aussi. Je pourrais plutôt dire c'est vous, certes, et moi aussi. Et donc l'année prochaine, à l'occasion des 100 ans, nous allons faire revivre toute cette histoire pour comprendre, pour aider chaque église à comprendre d'où on vient, ce qui nous constitue. C'est quand même pas rien cette histoire. Avec sa différence dans le paysage évangélique français, c'est pas rien, c'est fort. Il nous appartient de le vivre, de le revendiquer, parce qu'aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, les algorithmes vous amènent à finalement entrer en relation, en contact qu'avec les gens qui pensent comme vous, qui sont comme vous. La fédération est un lieu qui prône l'écoute des personnes qui sont différentes. À nous de faire vivre cette réalité sur la plateforme religieuse aussi. C'est notre responsabilité. C'est ce que Dieu a fait de nous. C'est donc ce que le Christ souhaite que nous portions. Et ce n'est pas facile à vivre. C'est tellement plus facile, et je le sais parce que j'ai été membre d'église pendant des années avant d'être de l'autre côté de la barrière, tellement plus facile de laisser le conseil va gérer. Pas mon problème. Je ne suis pas d'accord, mais je suis. Hein. Et non. Et non. Nous sommes tous responsables de l'église, tous responsables de la fédération. Je parlais tout à l'heure du bateau. Chaque église est une cabine. Il y a une partie d'un pont qui est baptiste, l'autre partie du pont est méthodiste, la troisième partie du pont est mennonite, l'autre partie est pentecôtiste, encore une partie est libriste, etc. Hein? Ça, c'est le pont 20e siècle, mais quand vous descendez au pont 19e, il y en a d'autres. Hein? Ce bateau-là est gigantesque. Comme le Titanic l'était à son époque, à la différence que ce bateau-là, il est réellement insubmersible. Et donc dans chaque pont, chaque partie du corps global doit manifester sa réalité, sa différence. Qui je suis en tant que fédération baptiste doit être conscientisé et amené sur la place publique. Parce que c'est beau. Cette capacité de vivre ensemble, c'est beau. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on gobe tout, hein. En 2015, nous n'avons pas été d'accord avec les PUDF. Nous avons demandé la démission de monsieur le président de la FPF, qui a osé faire l'amalgame, hein, en disant que c'était tous les protestants qui avaient voté 2015. Donc on a contesté, mais on est resté dans le... C'est pas parce que quelqu'un fait une bêtise ou va dans un sens qui ne nous convient pas que... On dit au revoir, on reste et on témoigne. Et on dit notre différence, on la manifeste. Parce que le protestantisme, ce n'est pas juste les PUDF aujourd'hui, c'est aussi nous. Avec nos 4 siècles d'histoire et nos 100 ans d'existence à la Fédération protestante de France, la maison du protestantisme, c'est nous, les baptistes, qui sommes les plus vieux. Nous sommes la plus vieille fédération de toute la maison. Et ils le savent tous. Et quand je veux blaguer, comme nous sommes au 4e étage, je leur dis que l'onction descend d'en haut. Il y en a qui rigolent jaune, il y en a d'autres qui rigolent vraiment. Voilà, je m'arrête là, je ne sais absolument pas quelle heure il est, mais je suis très bavarde, donc il faut m'arrêter à un moment donné.